Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition des 18h30, temps universel du mardi 17 décembre 2019. John Lyndon pour vous présenter cette édition. Tout d'abord, les titres. Au Tchad, le ministre de l'économie a été relâché, mais son directeur général est toujours en garde à vue. Au Mali, suite à l'insécurité, au moins 105 000 enfants sont des déplacés.
Ces enfants sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes. Ils retrouvent d'ailleurs beaucoup à Bamako, dans la capitale. Ils sont à Bamako pour rencontrer des enfants dans la rue. Et c'est des enfants aussi qui ont beaucoup de violence et même le recrutement par les groupes armés.
La France, toujours paralysée par la contestation contre la réforme des retraites. Ici aux États-Unis, les démocrates sont à un pas de la mise en accusation du président Donald Trump. Ce dernier prépare sa stratégie de défense. Et puis, ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Tchad, le ministre de l'économie, Issa Doubragne, placé en garde à vue la veille dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds publics, a été remis en liberté. On fait le point avec Bagassi Koura.
Après avoir passé la nuit en garde à vue dans les locaux des renseignements généraux, il a regagné son bureau ce matin, a indiqué son conseiller Alain Kagombe. Son directeur général, lui aussi placé en garde à vue lundi, s'y trouvait encore mardi en fin d'après-midi, selon ses mêmes sources. Ils ont été entendus après une plainte de l'inspection générale d'État pour, je cite, « détournement de deniers publics, complicité de détournement et abus de fonction ». A ajouté le responsable de la police, ajoutant que cette institution, placée sous l'autorité directe du président Idriss Déby Itno, accuse les deux hommes de prévarication dans la gestion du programme national du développement et de plusieurs autres projets. Début décembre, le secrétaire général de la présidente, Kaljebe Paimi Dede, ancien premier ministre, a été incarcéré, mis en cause dans une affaire de détournement de fonds publics, notamment. Le Tchad est dirigé par le président Idriss Déby Itno depuis 1990. Il est classé parmi les pays les plus corrompus.
Quatre djihadistes ont été neutralisés au cours d'une opération de démantèlement d'une importante base logistique terroriste à Bel Ouro, dans le nord du Burkina Faso. Selon l'état-major, de l'armement lourd, des munitions et des engins explosifs improvisés ont été saisis, ainsi que des motos. Cette offensive des forces burkinabées survient après plusieurs autres menées dans le nord, le centre nord et le sud. Le sommet sur le Sahel voulu par le président Emmanuel Macron, annulé la semaine dernière, a été reprogrammé pour le 13 janvier à Pau, au sud-ouest de la France. Il s'agira, selon l'Élysée, de réévaluer les objectifs de l'engagement français dans la zone et de poser les bases d'un soutien international accru aux pays du Sahel. Et puis, le président sud-soudanais Salva Kiir et Riek Machar se sont engagés à former un gouvernement d'union nationale avant fin février, à l'expiration d'un nouveau délai de 100 jours qui leur a été accordé lors d'une réunion en Ouganda avec les partenaires régionaux. Nathalie Barge.
Nous nous sommes dit que nous devions former le gouvernement après les 100 jours, a déclaré Salva Kiir à l'issue d'une rencontre à Djouba avec Riek Machar, qui a souligné que la question du nombre d'États régionaux n'a pas encore été résolue. Monsieur Machar, qui vit en exil à Khartoum, a précisé que les deux parties attendent un rapport du vice-président sud-africain David Mabuza avant d'avancer sur cette question. Le président Salva Kiir a précisé que si le problème n'est pas résolu d'ici à la formation du gouvernement, c'est ce dernier qui sera chargé de le résoudre au même titre que d'autres questions non résolues. Salva Kiir et Riek Machar ne parviennent pas à concrétiser certaines dispositions de l'accord de septembre 2018, dont la création d'une armée unifiée, le tracé des frontières et le nombre d'États régionaux.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso a appelé mardi la communauté internationale à apporter un appui à 150 000 de ses concitoyens sinistrés des inondations causées par les pluies qui s'abattent sans répit sur le pays et son voisin, la RDC. Devant l'ampleur des sinistres, je lance un appel pressant à la communauté internationale en vue d'un appui pour une réponse plus efficace à la situation humanitaire en région enregistrés, a-t-il déclaré mardi au Parlement réuni en congrès dans son message sur l'état de la nation. Le président congolais a assuré que le gouvernement s'organisait dans la mesure du possible pour apporter son assistance afin de gérer au mieux, en fonction de ses modestes ressources, les désastres enregistrés. Et puis le président Ali Bongo Ondimba du Gabon devrait refaire son retour sur la scène diplomatique demain à Libreville lors d'un sommet des chefs d'État de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les travaux seront consacrés à la réforme de cette communauté qui peine encore à se concrétiser comparée à la CDAO et la SADC. La Guinée équatoriale a soumis en début de semaine une proposition de résolution à ses pairs du Conseil de sécurité de l'ONU pour renforcer la lutte contre les mercenaires. Le texte appelle tous les États membres des Nations Unies à adopter des législations interdisant à leurs ressortissants de contribuer au recrutement, au financement, à l'entraînement et au transfert de mercenaires ou de combattants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, tous les regards sont braqués cette semaine sur la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates. La Chambre doit voter demain la mise à l'accusation du président Donald Trump pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès. Ce vote ouvre la voie à un procès au Sénat dominé par les Républicains qui devrait alors démarrer en janvier. Nous y reviendrons en partie magazine de ce journal. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce mardi en France contre la réforme des retraites au 13e jour d'une grève illimitée. On fait le point avec Abdourahman Dia.
Il s'agit de la troisième journée de manifestation depuis le début du mois, mais celle d'aujourd'hui se tient pour la première fois à l'appel de l'ensemble des syndicats, unanimes dans leur volonté de faire plier le gouvernement. Cheminots, enseignants, fonctionnaires, avocats, magistrats, la liste des opposants au nouveau système de retraite est longue et ils entendaient réaliser une nouvelle démonstration de force pour faire céder un gouvernement affaibli par la démission hier de l'artisan du projet, Jean-Paul Delevoye, soupçonné de conflit d'intérêts. À quelques jours des congés de fin d'année, la grève illimitée se poursuit, notamment dans le métro parisien et les chemins de fer. Des coupures d'électricité dans le sud-ouest et le centre-est ont par ailleurs été revendiquées par la CGT qui menace de coupures plus massives. La moitié des lignes de métro sont totalement fermées, provoquant des centaines de kilomètres de bouchons à Paris et dans sa banlieue. Malgré tout, Sibe Ndiaye, porte-parole du gouvernement, promet que le projet ne sera pas retiré.
Le premier forum mondial sur les réfugiés a débuté à Genève en Suisse. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à plus de générosité pour assumer la charge des déplacés. Yacouba Ouedraogo.
Ce forum veut donner un nouvel élan à la gestion des déplacés, plus nombreux que jamais. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
C'est le moment de construire une réponse plus équitable aux crises des réfugiés par le partage des responsabilités. L'humanité s'est réunie pour relever de nombreux défis énormes en matière de réfugiés tout au long du XXe siècle. Nous devrions être en mesure de faire de même au XXIe siècle. Ce n'est pas une situation ingérable.
Le nombre de déplacés dans le monde a atteint un chiffre record de 71 millions en 2018, dont 26 millions de réfugiés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays accueille 4 millions de réfugiés, estime que les pays riches n'assument pas leurs responsabilités. Pour sa part, le haut commissaire aux réfugiés des Nations Unies a appelé à plus d'humanisme. Filippo Grandi.
Nous voyons des réfugiés qui ont fui pour sauver leur vie, se faire diaboliser et devenir des figures de la peur. Nous voyons des gens faire du capital politique en attisant l'anxiété du public et en l'orientant vers certaines personnes les plus marginalisées et vulnérables du monde. Ce n'est pas seulement immoral, mais cela réduit l'espace pour des solutions pratiques.
Les débats vont se poursuivre jusqu'à mercredi et porteront aussi sur l'environnement, l'éducation, l'emploi et l'énergie.
L'ex-président pakistanais Pervez Musharraf, en exil à Dubaï, a été condamné à mort par contumace mardi pour haute trahison. Selon la radio publique, une première dans un pays où l'armée est souvent considérée comme à l'abri des poursuites. Aujourd'hui âgé de 76 ans, le général Musharraf était parvenu au pouvoir par un coup d'État sans effusion de sang en octobre 1999, puis c'était au s'autoproclamer président en juin 2001, avant de remporter en avril 2002 un référendum controversé. Il était resté à la tête du Pakistan jusqu'en 2008. L'Union européenne fera le maximum pour conclure un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni pour la fin de 2020, comme le demande le Premier ministre britannique Boris Johnson. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le négociateur européen Michel Barnier, sans se prononcer sur la possibilité de réussir à boucler un tel accord dans les délais impartis. Boris Johnson veut interdire toute extension au-delà de 2020 de la période de transition après le Brexit le 31 janvier prochain, même sans accord commercial avec Bruxelles à cette échéance. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est la Minute Éco avec Irénée Herman Umbo.
La Banque mondiale a approuvé le déblocage de 100 millions de dollars en faveur du Bénin. La nouvelle enveloppe ira à l'appui des politiques de développement du gouvernement de Patrice Talon. L'institution financière entend agir également au Mali en lui octroyant un prêt de 50 millions de dollars pour améliorer les services en faveur de la paix et de la sécurité. Le gouvernement guinéen a réussi à mobiliser et à investir 9 milliards sur les 21,7 milliards de dollars de promesses faites par les bailleurs de fonds lors des travaux du groupe consultatif de Paris en novembre 2017 pour le financement du plan national de développement 2016-2020. Par ailleurs, le FMI a annoncé le déblocage de plus de 368 millions de dollars d'une ligne de crédit d'urgence pour que Kinshasa puisse répondre à ses besoins urgents en matière de balance des paiements. L'institution a également approuvé la mise en place d'un programme qui autorise ses équipes à aider les autorités de la RDC à mettre en œuvre leur politique.
Et Yacouba Ouédraogo nous a retrouvés pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par l'élite 16 de la Basketball Africa League en Afrique de l'Est.
Oui, après la division Ouest et le tournoi de Yaoundé avec le succès de la GSP d'Algérie, place à la compétition dans la division Est. C'est à Kigali que se déroule la compétition de l'élite 16 du Basketball Africa League 2020. Dans le groupe A, les hôtes de Patriot BBC, les Malgaches de GNPC, les Zambiens de Yunza Pacers et les Tanzaniens de JK BBC s'affrontent. Le groupe B regroupe Ferroviaro du Mozambique, Cobra du Soudan du Sud et City Oilers d'Ouganda. L'enjeu, les trois derniers tickets pour la saison régulière de la balle qui débute en mars 2020. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales et les trois premiers décrochent leurs billets pour la Basketball Africa League.
En football, l'Ouganda remporte le tournoi féminin des moins de 17 ans du CECAFA.
Les Ougandaises se sont imposées 2-0 face aux Kenyans. Avec un total de 13 points, l'Ouganda domine ainsi le championnat du Conseil des fédérations de football d'Afrique de l'Est. Pour cette dernière journée, la Tanzanie a dominé Djibouti 10-0, pendant que le Burundi prenait le dessus sur l'Érythrée 4-0. La Tanzanie a fini deuxième. L'Ouganda avait déjà remporté la première édition du tournoi féminin des moins de 17 ans dans la zone COSAFA.
Rod Fanny rempile pour une saison à l'Impact de Montréal.
L'Impact de Montréal a fait signer un nouveau contrat au défenseur central français d'origine béninoise. Rod Fanny, 38 ans, poursuit ainsi son aventure avec la franchise canadienne. Désormais entraîné par Thierry Henry, ce sera sa troisième campagne en MLS avec l'Impact de Montréal. Depuis sa venue en 2018, Rod Fanny a joué 29 rencontres de la Major League Soccer.
Et on parle de fin de saison pour Memphis Depay.
L'Olympique de Lyonnais a annoncé que son capitaine, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche face à Rennes en championnat de France, va rater la fin de saison. L'indisponibilité ne devrait pas être inférieure à 6 mois, a expliqué le club français, ce qui ôte pratiquement tout espoir de participation de l'international néerlandais à l'Euro 2020. Memphis Depay, 25 ans, évolue à Lyon depuis 2017. Il compte 52 sélections avec les Pays-Bas.
Et pour terminer, Yacouba, toujours pas de date de retour pour Paul Pogba.
En plus de sa blessure à une cheville qui le tient éloigné des terrains depuis septembre, il est maintenant tombé malade et a pris 2 ou 3 jours de repos, a expliqué Ole Gunnar Solskjaer. entraîneur de Manchester United, des propos qui tranchent avec les images de Paul Pogba au mariage de son frère Florentin, vendredi dernier en région parisienne. Une vidéo où il danse a été diffusée et commentée sur les réseaux sociaux et selon l'agence de presse PA, le champion du monde 2018 avait la permission de son club pour assister au mariage de son frère.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour et on commence par le Mali. Le Mali, où l'organisation Save the Children tire la sonnette d'alarme sur la situation des enfants. Ils sont les plus durement touchés par l'aggravation de la crise sécuritaire et humanitaire dans le nord et le centre du pays. Les régions de Menaka, Mopti et Kidal ont les taux les plus élevés d'enfants déplacés non scolarisés, estimés à plus de 300 000. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Bamako le porte-parole de Save the Children au Mali, Salek Ouldeda.
Ces chiffres sont ici aussi des sources officielles onusiennes, si vous voyez bien les références en dessous, et qui sont aussi collectées en compagnie, en partenariat avec le ministère en charge de la protection. Il ressort des décomptes que les services du ministère en charge de la protection et le HCR font au niveau des zones d'accueil, principalement au niveau de Sévari, la principale ville de la région de Mopti, où nous enregistrons les déplacements. La tranche d'âge, évidemment, c'est principalement des enfants, parce qu'il y a des nouveaux-nés, évidemment, des 0 à 14 ans. Très souvent, c'est des enfants qui sont en tranche, en âge d'aller à l'école. Et certains parmi ces enfants qui, aujourd'hui, sont déscolarisés.
Justement, vous estimez à plus de 300 000 le nombre d'enfants non scolarisés et plus de 1050 écoles fermées. Quelle est l'alternative ? Aujourd'hui.
Ce n'est pas l'ensemble des enfants déscolarisés au Mali, c'est uniquement dans les zones du conflit et à cause du conflit, depuis que l'évaluation à ce niveau est faite. Et donc, il y a plus de 1050 écoles fermées. Vous savez, il y a un cluster, ce qu'on appelle le cluster éducation, qui fait une évaluation mensuelle à travers un rapport de remontée de données. Ces enfants sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes. Ils se retrouvent d'ailleurs beaucoup à Bamako, dans la capitale. Si vous venez à Bamako, vous rencontrez des enfants dans la rue. Et c'est des enfants aussi sujets à beaucoup de violence et même le recrutement par les groupes armés. Donc l'alternative aujourd'hui à travers nos programmes, c'est de fournir des programmes d'urgence en éducation à travers les centres d'apprentissage temporaires. Avec le ministère de l'éducation, bien entendu, une sorte de programme d'accélération. Le ministère a une stratégie de scolarisation accélérée, une stratégie nationale, qui consiste à mettre ensemble dans une grande salle unique les enfants disponibles, déplacés, et d'autres enfants autour d'un programme de 9 mois et qui leur permet maintenant d'être versés dans l'école formelle. À l'évaluation au terme de 9 mois, les deux premiers mois, c'est la langue nationale du milieu qu'ils apprennent et les 7 autres mois, c'est le français. Et à l'évaluation, on évalue. Le premier niveau est versé au niveau 4e année d'une école classique et ceux qui viennent après sont versés au niveau 3 et ceux qui sont moins bons au niveau 2. Dans tous les cas, ils rattrapent 2 à 4 ans de scolarisation. Et très souvent, ils arrivent de façon extraordinaire à s'inscrire définitivement. Ça fait partie des alternatives pour pouvoir justement, de pouvoir donner plus de chance à ses enfants et de ne pas les laisser dans la rue.
Y a-t-il une solution durable envisagée sur le long terme?
Oui, absolument. Et ça, c'est l'autre volet de la science. Mais nous ne sommes pas là pour le moment. Nous sommes dans une dynamique pédagogique d'information et de sensibilisation à travers le comité. À l'heure où je vous parle, il y a une délégation du comité national qui est à Mopti. Ils sont en train de mettre en place le comité régional de suivi de la déclaration sur la sécurité qui va faire un travail aussi en profondeur. Et il y aura des comités dans les régions. Nous pensons que ça peut aider justement à sensibiliser, à créer l'alerte qui est en conflit.
Salek Ouldeda, porte-parole de Save the Children au Mali.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le G5 Sahel, réuni en sommet extraordinaire à Niamey, appelle la communauté internationale à plus d'engagement dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Un appel lancé après la mort de 71 soldats nigériens à Inates, l'attaque la plus meurtrière visant l'armée nigérienne depuis 2015. Quelle stratégie face aux groupes armés dans le Sahel? Quel rôle pour la communauté internationale dans cette lutte contre le terrorisme? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
En Afrique, plus de 70% des éléphants de forêt ont été décimés principalement par des braconniers qui les tuent pour leur ivoire précieux. Les gardes forestiers sont en première ligne pour défendre les éléphants de moins en moins nombreux. Au Gabon, ces gardes forestiers également appelés éco-gardes ne font plus cavalier seul. Désormais, ils travaillent main dans la main avec l'armée américaine qui se joint à la lutte contre le braconnage en aidant à former les rangers qui protègent ces éléphants. Carla Bab s'est rendue au Gabon pour cette immersion exclusive au centre du pays. Dili Diko raconte.
Cette cadence apporte de l'espoir au parc national de Lopé. C'est le chant des éco-gardes qui s'entraînent pour faire face au braconnage. Une lutte qui peut devenir mortelle.
Could somebody brief your medical plan?
La présence des forces américaines augmente les chances de survie.
Dans notre trajet de patrouille habituel est de partir du centre, nous diriger vers la route principale, puis vers le sud, via ce point.
VOA est le premier média à intégrer une équipe de l'armée américaine lors d'une mission anti-braconnage.
Regardez où vous marchez, on a vu le serpent énorme là-bas.
L'équipe est dirigée par le capitaine Kevin Chapla de l'armée américaine.
En ce moment, ils sont environ 200 mètres de ce qui semble être le campement de quatre braconniers. De là, ils vont probablement envoyer un élément en reconnaissance pour avoir plus d'informations. À son retour, ils vont élaborer un plan et puis effectuer un raid.
Les formations comme celle-ci ont débuté en Tanzanie en 2009.
Nous les aidons non seulement à préserver la faune, mais également à mettre fin à ces organisations criminelles et à forger un avenir meilleur.
Les opérations américaines ont commencé au Gabon l'année dernière.
1, 2, 3.
Des mois de formation ont permis d'améliorer les techniques de capture et la conservation des preuves contre les braconniers.
Pour essayer de vérifier s'il n'y a pas des papiers cachés ou des informations qui peuvent nous mener à bien notre mission.
Ces éco-gardes sont des personnes très motivées. Les former est non seulement un plaisir, mais également facile.
Contrairement aux formations anti-braconnage d'autres pays, le capitaine Chapla explique que la collaboration avec l'Agence des parcs nationaux du Gabon est axée sur la capacité à s'autonomiser.
Nous formons un groupe d'instructeurs qui peuvent par la suite transmettre leurs compétences et les diffuser à tout le vent. Le fait d'être capable d'instruire les leurs est vraiment la preuve d'un concept qui marche.
Pas à pas, les soldats de cette guerre contre le braconnage continuent à avancer, déterminés à protéger les éléphants en voie de disparition, à la fois pour leur pays et pour le monde entier.
La Chambre des représentants doit voter cette semaine la mise en accusation du président Donald Trump. La Maison-Blanche se concentre plus sur le Sénat, dominé par les Républicains, qui doit juger le président. Patsy Widakwazura, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, revient sur la stratégie de Trump et ses alliés. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le mois de décembre est généralement un moment de fête et de joie. Mais à la Maison-Blanche, ce n'est pas l'esprit de Noël quand on se prépare à une bataille. Cette semaine, la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates doit voter la mise en accusation du président Donald Trump pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès. Il s'ensuivra un procès au Sénat où les démocrates veulent entendre plus de témoins, y compris le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, et l'ancien conseiller de la sécurité nationale, John Bolton, Chuck Schumer, leader de la minorité démocrate au Sénat.
Ils pourraient présenter des preuves à des charges qui exonèrent le président. Cela peut être aussi incriminant pour le président, mais ils devraient être entendus.
Jusque-là, la stratégie de la Maison-Blanche a été de bloquer, qualifiant les enquêtes de la Chambre de processus partisan. Le procédé a été efficace pour maintenir le soutien de la base de Trump. Todd Belt est professeur à l'université George Washington.
Tant qu'il maintient sa base et que les gens restent fidèles au président, alors les sénateurs se diront, eh bien, ça ne sera pas bien de rompre avec le président si je me présente aux élections.
Maintenant que le processus se déplace vers le Sénat dirigé par les républicains, la stratégie de la Maison-Blanche change en de meilleures relations avec les républicains pour aller rapidement au procès et limiter les dégâts politiques. Le président Donald Trump.
J'ai écouté Mitch McConnell, j'ai écouté Lindsey Graham. Je pense qu'ils sont tout à fait d'accord sur un concept. Je ferai tout ce qu'ils veulent faire, peu importe.
Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a promis une coordination totale avec l'administration. Ses critiques l'accusent d'avoir violé son devoir d'impartialité. Vanessa Bisley est professeure à l'Université Vanderbilt.
C'est une stratégie qui a bien marché pour McConnell dans le passé pour aller de l'avant et signaler ses allégeances, signaler ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas faire. Il parie sur ce que les républicains veulent faire et le dit maintenant.
Autre stratégie, continuer d'attaquer le candidat démocrate Joe Biden comme corrompu pour avoir permis à son fils de siéger au conseil d'administration d'une société énergétique ukrainienne lorsqu'il était vice-président. Ces accusations peuvent fragiliser Biden. Pour sa part, Joe Biden rejette les demandes qu'il témoigne au procès de Trump comme un stratagème visant à détourner l'attention du public. Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'artiste ivoirien Mewé a célébré ses 30 ans de carrière à guichet fermé en Côte d'Ivoire le week-end dernier. Prochaine destination de cette célébration, Accra au Ghana. Mewé entamera par la suite une tournée dans d'autres capitales africaines, puis européennes et américaines. D'Abidjan, le père du Zoblazo revient sur son parcours. Il est au micro d'Eki Abadou.
Je tiens tout d'abord à remercier tous mes fans, remercier aussi toutes les autorités ivoiriennes qui se sont associées à cette célébration marquant mes 30 ans de carrière. Je suis soulagé d'avoir connu cette adhésion populaire pour célébrer ces 30 ans de carrière et pour surtout m'honorer vivant. Je commençais à embrasser le métier dans le monde professionnel en 89. J'avais été inspiré par la musique camerounaise, que le Makossa régnait à l'époque. Et puis il y a quelqu'un qui arrive, qui dérange un peu tout le monde et qui dit « bon voilà, je vous apporte autre chose ». C'est Sam Fantomas. J'ai comme ça façonné ma musique en essayant de faire comme eux, comme ces faiseurs de Makossa et de Makassi, en m'appuyant sur la tradition ivoirienne, la tradition Zima en particulier, dans le sud de la Côte d'Ivoire, pour mettre en avant mon Zoblazo.
Dans chaque mariage, quelle que soit l'origine africaine des personnes, il y avait ce titre Zoblazo avec nos mouchoirs. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile de faire 30 ans de carrière? Car certains imaginent que c'est facile. Est-ce que vous pouvez nous faire un témoignage concernant ces 30 ans?
Beaucoup de personnes croient que on travaille dans un hamac, quoi, et que nous sommes des enfants gâtés de toutes les professions. Non, pas du tout. On peut faire un tube dans ce métier pour perpétuer les succès, pour faire succéder les tubes. C'est pas si évident que ça. Donc 30 ans de carrière, être toujours constant, être toujours dans l'actualité, c'est le plus difficile à faire. Et moi, j'y suis appelé par force de travail, par persévérance et puis par mise à jour, parce que je me suis toujours dit que j'étais pas parfait. Donc chaque fois qu'il y avait des tendances et chaque fois qu'il y avait des nouveautés ou de nouvelles musiques qui arrivaient, je m'en inspirais pour faire évoluer ce que je faisais.
«
Je suis un africaniste, je suis un Africain très fier de son continent, qui a même les deux pieds ancrés dans la tradition. En Afrique, on a des valeurs, mais ces valeurs-là, on n'en a pas conscience. On n'en prend pas soin. À force de vouloir copier sur l'Occident, à force qu'on nous impose tout ce qui vient d'ailleurs, on est un peu perdu. La femme avec les lolos, ce sont des valeurs. Et on aime ça. Pourquoi on ne protège pas ça? Moi, j'ai décidé de protéger ça en chanson.
Bonne célébration à Mewé, c'est la fin de cette édition mise en onde par Joselle Morissin. Vasco Volarich était à la console, John Linden vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique.